VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francis.
13h à Ouagadougou, 14h à Bangui. Bienvenue à notre journal. On commence par l'actualité américaine. Moscou a démenti aujourd'hui toute implication dans la rencontre en juin 2016 entre le fils aîné du président américain Donald Trump et l'avocate russe Natalia Veselnitskaya pendant la campagne présidentielle américaine. Nous avons déjà dit que nous ne sommes pas au courant de toute cette histoire, a déclaré aux journalistes le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, en soulignant que Moscou n'a jamais été en contact avec l'avocate. Donald Trump Jr. a admis hier avoir volontairement rencontré Natalia Veselnitskaya, présentée comme une émissaire du gouvernement russe voulant fournir au candidat républicain à la présidence des informations compromettantes sur son adversaire démocrate Hillary Clinton. Plus de détails avec John Lindon.
Un extraordinaire rebondissement dans l'affaire qui empoisonne le mandat du président américain. Son fils Donald Trump Jr., 39 ans, a publié sur Twitter 4 pages de messages échangés en juin 2016 avec un intermédiaire britannique. Le New York Times venait de promettre leur divulgation imminente. Donald Trump Jr. a été contacté par Rob Goldstein, un agent représentant le chanteur russe Emin Agalarov. Rob Goldstein informe le fils de Trump que le procureur général de Russie a proposé à Arras, le père du chanteur, de donner à la campagne Trump des informations et documents officiels qui pourraient incriminer Hillary et ses transactions avec la Russie. « Si ce que vous dites est vrai, j'adore l'idée », a répondu Donald Trump Jr. et plusieurs échanges ont suivi. Le vice-président Mike Pence a pris ses distances avec le fils de Donald Trump, qui de son côté a salué la transparence de son fils aîné. Depuis, la presse américaine en fait les choux gras.
La lutte contre le groupe État islamique au Proche-Orient maintenant, le commandant des forces de la coalition anti-djihadiste en Irak espère que le leader du groupe État islamique Abu Bakr al-Baghdadi est bien mort. Mais qu'il soit mort ou non, avertit le général Stephen Townsend, la lutte pour reprendre tous les territoires irakiens pris par les djihadistes est loin d'être terminée. Le général Townsend a souligné n'avoir aucune idée de ce qu'il est advenu d'al-Baghdadi, ajoutant que s'il est mort, cela signifie que quelqu'un d'autre dirige l'organisation et qu'ils essaient de ne rien dire sur son sort pour ne pas affecter le moral de ses troupes. Relations États-Unis-Soudan, le président américain Donald Trump a prolongé de 3 mois la période probatoire décidée par son prédécesseur Barack Obama avant une éventuelle levée totale des sanctions économiques de Washington contre Khartoum. L'annonce en a été faite mardi soir par le département d'État américain, Jean-Roger Bion.
Par un décret présidentiel, M. Trump a prolongé cette période de 3 mois supplémentaires, soit jusqu'au 12 octobre, a indiqué dans un communiqué la porte-parole de la diplomatie américaine, Heather Nauert. Les sanctions seront définitivement révoquées si le gouvernement soudanais poursuit ses actions positives, a-t-elle fait valoir. Washington a, à l'égard de Khartoum, des exigences en 5 points, la fin du soutien aux groupes rebelles au Soudan du Sud, la fin des hostilités dans les provinces du Darfour, du Nil Bleu et du Kordofan Sud, et une coopération avec le renseignement américain contre le terrorisme. Les sanctions économiques contre le Soudan avaient été imposées en 1997 pour son soutien présumé aux islamistes dont le chef d'Al-Qaïda Osama Ben Laden, tué dans un raid américain au Pakistan en mai 2011. Dans les derniers jours de sa présidence, le 13 janvier dernier, M. Obama avait levé certaines sanctions frappant Khartoum depuis 20 ans, mais avec une période probatoire de 6 mois avant une possible suppression complète de ces mesures punitives. Cette période s'est achevée ce mercredi.
Au Tchad, le gouvernement du président Idriss Déby Itno a revu à la baisse les salaires et indemnités de ses soldats et généraux dans le cadre des mesures d'austérité qu'il prend pour redresser l'économie nationale. Un décret a été signé à ce sujet le 3 juillet. De N'Djamena, notre correspondant André Kodmajinga en fait le point.
Désormais, les officiers supérieurs de l'armée tchadienne qui gagnaient 800 000 francs CFA pendant la période de vache grasse chutent en flèche. Ils doivent dorénavant se contenter de 360 000 francs CFA et un soldat chute de 50 000 à 34 000 francs CFA. Au cours d'un débat ce lundi à l'Assemblée nationale, les députés n'ont pas été tendres avec le gouvernement. Le député Nouradine Deloua Kassire Koumako y s'érige en véritable défenseur des militaires.
Ne prenez pas un centime de l'argent des militaires. Vous allez nous créer encore les problèmes de coupeurs de route. C'est eux qui assure la garantie de l'État. Ne les provoquez pas. Les détournements des deniers publics, ça ne date pas d'aujourd'hui. Le plus simple, c'est de mettre les gens compétents, de bien les payer pour qu'ils ne soient pas tentés. Mais ne commencez pas par ceux qui assurent votre sécurité et qui peuvent vous provoquer des troubles.
Tout comme le général de division Routon Yuma Golom, aujourd'hui président de la commission défense et sécurité à l'Assemblée nationale, qui a fait observer que le gouvernement est en train de jouer avec le feu.
Ces militaires ont des charges. Ils louent, ils se soignent. On ne peut pas jouer avec le feu. Je trouve qu'il n'y a pas un sens humain dans ces décisions. Pourquoi le Premier ministre qui décide de réduire à gauche et à droite maintient son fonds de souveraineté?
Les victimes elles-mêmes murmurent dans les coulisses, mais tenues par une obligation de réserve, elles n'ont pas encore jusque-là réagi officiellement. Mais pour le commun de mortels, le pire est à craindre. André Kodumadjingar Ndjamena pour VO Afrique.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
Au Mali, nouveaux affrontements entre les groupes armés signataires de l'accord de paix dans la région de Kidal, dans le nord-est du pays, mardi. Des combats avaient déjà opposé la coordination des mouvements de l'Azawad, CMMA, ex-rébellion à dominante Touareg, au Gatia, le groupe d'autodéfense Touareg, Imgad et allié pro-gouvernemental, le 6 juillet dans le même secteur. Les toutes dernières violences hier ont coïncidé avec la tenue à Bamako d'une réunion du comité de suivi de l'accord de paix de mai-juin 2015, d'où la menace de sanctions contre les groupes responsables de ces violences formulée par le chef de la mission de l'ONU au Mali, le Tchadien Mahamat Saleh Anadif. Au Burkina Faso, un rapport de la commission du Conseil supérieur de la magistrature met en cause 37 magistrats qui auraient monnayé leur service. Dans la foulée, les magistrats ont adopté un nouveau code de déontologie et d'éthique. Pour en savoir davantage, Yacouba Ouédraogo a joint Victoria Ouédraogo Kibora, secrétaire permanente du Conseil supérieur de la magistrature burkinabé.
Les 37 magistrats épinglés dans le rapport ne sont pas tous accusés d'avoir monnayé leur service au niveau de la justice, parce que il y a d'autres types d'infractions pour lesquelles ces personnes sont certainement poursuivies. Le rapport a été remis officiellement au Conseil supérieur de la magistrature parce que c'est lui qui a demandé et mis en place une commission chargée de mener l'enquête sur les manquements commis par les magistrats dans le cadre de leur service. Donc ce rapport est revenu naturellement au Conseil supérieur de la magistrature qui a décidé de la remise de copie au président du Faso en sa qualité de garant de l'indépendance du pouvoir judiciaire et au ministre de la Justice.
Dans la foulée, vous vous êtes doté d'un nouveau code de déontologie. Qu'est-ce que cela va apporter de nouveau?
L'adoption de ce code de déontologie contribuera à restaurer la confiance du justiciable dans les décisions de la justice et de leur faire comprendre ou du moins de montrer la transparence des conditions qui guident le magistrat ou le juge dans sa prise de décision et puis de permettre au justiciable également de comprendre que même au sein de sa juridiction, le magistrat est tenu de certains devoirs d'éthique et de déontologie dans la mission que lui a confiée la Constitution.
Une chose est d'adopter un code d'éthique et de déontologie, une autre chose est de le faire respecter. Pensez-vous en avoir les moyens?
Le caractère de ce code déjà, caractère contraignant, implique le fait que la violation des dispositions contenues là-dedans est passible de sanctions disciplinaires. Déjà, ça, il faut comprendre que c'est un caractère dissuasif. Et puis, en plus, cela permettra aux justiciables de savoir également les situations dans lesquelles le magistrat ne respecte pas sa déontologie, parce que ce code va être rendu public, va être mis à la disposition de tous, et permettra aux justiciables de se plaindre au cas où il estime que les dispositions du code de déontologie qui sont désormais contraignantes ont été violées par un magistrat en fonction.
Est-ce à dire que si un citoyen estime que le magistrat, peut-être en rendant une décision donnée, a violé ce code de déontologie et d'éthique, ce citoyen-là pourra poursuivre le magistrat en question?
Le justiciable a la possibilité de saisir le Conseil supérieur de la magistrature lorsqu'elle estime qu'elle a été violée dans ses droits par des attitudes qu'il a considérées comme étant des manquements de la part des magistrats.
Victoria Ouédraogo Kibora, secrétaire permanente du Conseil supérieur de la magistrature au Burkina Faso. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.org. www.voaafrique.com.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.